10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Bienvenue sur RCN pour une émission spéciale d'Épices et Tout. Vous le savez, chaque mois, on se retrouve en direct sur RCN pour traiter des épilepsies. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'être ici au Purple Day, accompagné de beaucoup d'invités. Et ensemble, nous allons parler de l'aidance. Je vous demande d'applaudir nos invités, si vous le voulez bien. On est en public. Et je voudrais saluer Madame Horler. Bonjour. Je vous laisse prendre le micro. Et vous allez tous vous présenter, si vous le voulez bien. Bonsoir, Madame Horler.
Bonsoir.
Vous êtes maman d'une jeune fille qui s'appelle Léna et qui souffre d'épilepsie.
Oui.
Et vous êtes donc ce qu'on appelle une mère aidante.
C'est ça.
C'est bien ça. Vous nous raconterez un petit peu votre parcours et votre histoire dans quelques minutes.
Oui.
Et vous nous présenterez Léna, bien sûr. Puis Léna prendra la parole si elle le veut. Oui. Je crois qu'il y a votre autre fille, sa sœur, qui est là aussi. Vous pouvez lui passer le micro.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Oui.
Bonsoir. Vous vous appelez comment? Dites-nous, parce que j'ai pas.
Alors, je m'appelle Elisa.
Elisa.
Ouais.
Bienvenue à vous. Donc vous êtes sœur de Léna, la sœur de Léna, donc sœur aidante. Et c'est vrai qu'il y a, on l'a déjà remarqué dans cette émission, des liens qui se créent entre frères et sœurs quand il y a une maladie, notamment une épilepsie. Mmh. Vous nous raconterez un petit peu comment ça se passe pour vous, comment vous vivez avec votre sœur, ce que vous mettez en place aussi.
Avec plaisir.
Partagez. À côté, nous avons Céline Bélinger. On va lui passer le micro. Il va revenir par ici. Bonsoir, Céline.
Bonsoir, Thomas.
Céline, on a le plaisir de se connaître aussi, puisque tu nous accompagnes chaque mois dans l'émission Épices et Tout.
Voilà.
Tu représentes la COP.
Oui, comme une communauté de pratique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, j'ai complètement oublié dans mon panorama de vous parler de cette émission Épices et Tout, réalisée donc en partenariat avec la radio RCN, et je ne savais pas que les enfants du Cossé avaient repris ce beau slogan, j'ai trouvé ça génial, c'était très très beau. Voilà, donc émission mensuelle, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, il y a des flyers sur la table de la COP Épi, et n'hésitez pas à réécouter en podcast sur YouTube, on traverse tous les sujets qui touchent à l'épilepsie, à travers des témoignages de personnes, enfin voilà, un petit peu comme on va faire ce soir.
À tes côtés, Leslie André, vous êtes psychologue à la MAS Épi Grand Est. Vous voulez bien nous dire ce que c'est la MAS?
C'est une maison d'accueil spécialisée en épilepsie, donc nous accueillons des adultes à partir de 18 ans. Nous avons une quarantaine de résidents, nous accueillons aussi des résidents en accueil de jour et en temporaire pour faire des stages d'évaluation pour des jeunes qui arrivent à l'âge adulte, pour évaluer les besoins qu'ils auraient en termes d'établissement ou de suivi.
Et on parlera avec vous donc de cet accompagnement et comment vous accompagner à prendre en autonomie les jeunes que vous suivez quotidiennement. Je voudrais qu'on passe le micro à Josette Bury. Voilà, le temps que le micro vous arrive. Josette Bury, vous êtes de l'AFTC Lorraine. Vous allez nous expliquer ce qu'il y a derrière cet acronyme. Et on va parler avec vous notamment de la résidence chez NAT.
Oui. Alors je suis effectivement, je suis présidente de l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés. On est une association régionale, on a au moins 45% de personnes de nos cérébraux lésés qui sont épileptiques, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et on a eu les grandes difficultés, c'est de pouvoir faire prendre en charge des personnes qui n'ont pas de critères, entre guillemets, pour entrer dans une masse, dans un foyer, ou de pouvoir vivre seul en logement. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans les logements et qui sont devenus de l'habitat inclusif.
Et on va en reparler avec vous, parce que c'est votre rôle aussi d'aider les gens à prendre en autonomie, vos résidents à prendre en autonomie.
À prendre l'autonomie et à aider les aidants à être assurés.
Et ben on va en parler, c'est très important, c'est la thématique qu'on va aborder donc ce soir. À vos côtés, Ludivine Rocher, on vous a déjà un petit peu vu ce soir, mais on va vous présenter pour nos auditeurs. Vous êtes infirmière en pratique avancée.
Oui, alors Ludivine Rohrer, je suis
excusez-moi.
C'est pas grave. Infirmière en pratique avancée, donc comme on l'a déjà expliqué, c'est un nouveau métier, mais bon, qui est de moins en moins nouveau, qui permet de suivre des patients au relais des épileptologues. Et je suis aussi, j'anime aussi le programme d'éducation thérapeutique pour les patients épileptiques chez les adultes.
Et on verra avec vous le rôle que vous pouvez avoir aussi auprès des familles qui viennent consulter directement. Et puis on va passer le micro maintenant au docteur Ferrand, je ne dis pas de bêtises. Docteur Michael Ferrand, vous êtes neurologue adulte et vous intervenez à la MAS notamment, c'est bien ça?
Exactement, j'ai la chance de travailler à deux endroits en même temps, enfin pas tout à fait en même temps, mais sur la même semaine, je partage mon travail entre l'hôpital à Nancy dans le service d'épileptologie et également à la MAS de Dommartin-les-Toul avec les résidents, les 40 et quelques résidents, pour pouvoir leur donner des soins les plus complets qui soient.
Merci beaucoup. Et puis à vos côtés, le docteur Mathieu Kuchenbusch. Vous êtes neuropédiatre et vous intervenez auprès du COSSÉ qui était avec nous il y a quelques minutes sur cette scène.
Tout à fait. Je travaille au CHU, je suis maître de conférence au CHU et neuropédiatre qui intervient au COSSÉ où il y a une vingtaine d'enfants épileptiques qui sont pris en charge.
Alors je vous propose pour démarrer cette table ronde, cette discussion qu'on va avoir sur la thématique, alors je reprends mes notes, mais être aidant, protéger et autonomiser, est-ce une mission impossible? J'aimerais qu'on vous donne la parole peut-être à nos témoins, j'allais dire, ceux qui vivent l'aidance directement. On commence par la maman, Madame Orler peut-être. Vous êtes donc avec Léna qui est à vos côtés et je le disais, Léna donc souffre d'épilepsie. On vous a vu dans un reportage tout à l'heure, pour ceux qui l'ont suivi, on le mettra en lien sur la chaîne YouTube de RCN, vous pourrez le revoir. Et si j'ai bien compris vos témoignages, bien sûr que la maladie est quelque chose qui prend de la place, mais vous ne voulez pas lui laisser toute la place non plus. On va allumer votre micro, je pense qu'il est éteint.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je le dis crânement, mais c'est évidemment un gros travail à faire sur soi-même, parce que, comme je le disais aussi, c'est une maladie qui fait très peur, qui est arrivée dans notre famille comme un tsunami. On en reparlait tout à l'heure du premier jour où Léna est tombée dans la salle de bain et où elle a poussé ce râle dont vous parliez aussi tout à l'heure. Et où l'épilepsie a fait irruption dans nos vies. Voilà.
Et parce que vous passez du statut de maman à aidante d'un seul coup.
Alors, ça c'est... J'avais préparé quelques notes, mais...
Allez-y, si vous voulez.
Non, mais effectivement, c'est à quel moment on passe du statut de parent qui fait les choses de façon normale pour son enfant, finalement, et à quel moment on devient aidant. Ça, c'est une grande question. Et en réfléchissant à ce soir, en préparant un petit peu, je me disais finalement, c'est la vie qui va nous faire basculer de parent à aidant. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on va accomplir n'est plus classique, n'est plus typique dans une vie parent-enfant. Et puis après, je me disais, c'est aussi finalement l'aider qui va nous donner le tempo. On parle ce soir d'autonomie, autonomiser et protéger, mission impossible. À quel moment on autonomise, à quel moment on protège, à quel moment on surprotège et on arrête d'autonomiser. Ça, c'est vraiment des questions qu'on rencontre finalement au quotidien quand on est parent.
C'est une question que vous posez vraiment tous les jours, ça. Quelle est
tout
la limite
temps.
Entre le moment où je protège
tout
et le
temps.
Moment où j'autonomise?
C'est une question que je me pose tout le temps dans sa vie, notamment dans les transitions. Dernièrement, elle a vécu une transition en passant du monde enfant au monde adulte, hein, puisqu'elle vient d'arriver dans un foyer, d'accueil spécialisé, médicalisé. Et à quel moment on lâche un peu la bride, on se dit, mais finalement, à 22 ans, un enfant qui n'a pas de handicap, qui n'a pas d'épilepsie, on le laisse partir, on le laisse partir faire ses études, on le laisse partir avoir son appartement, faire sa vie en couple. Voilà, il est autonomisé de soi. Voilà.
Oui.
Et un enfant qui a un handicap, qui est porteur d'un handicap, qui est porteur d'épilepsie, qui plus est, qui se surajoute au handicap, ben, ma foi, l'idée, c'est aussi de faire pareil. Mais en faisant en sorte que le cordon ombilical soit un peu élastique pour qu'il puisse revenir de temps en temps. Voilà, et c'est elle qui nous donne le tempo dans tout ça. Et la question que je me posais et que je lance à débat finalement, c'est qui a besoin d'être autonomisé, l'aidant ou l'aidé?
C'est souvent une vraie question là que vous posez. On a eu déjà l'occasion de recevoir plusieurs fois des aidants en studio, et c'est souvent un petit peu cette idée-là. On a l'impression que l'aidant quelque part, et d'ailleurs c'est dit, je crois que c'est Camille qui disait ça tout à l'heure, la maladie finalement, elle retombe plus sur les épaules de l'aidant que de la personne malade.
Oui.
Vous le ressentez aussi?
Ah oui, complètement, parce que c'est ce qu'on disait dans le reportage. Léna, quand elle fait des crises d'épilepsie, elle se souvient pas. Mais nous, enfin, je vais laisser la parole à ma fille aînée, parce que finalement, quand on accompagne Léna au sol, quand on la met en position latérale de sécurité, quand on compte et qu'on se dit 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ah, tu peux sortir le bucolame, s'il te plaît. Enfin, voilà, c'est là, c'est lourd. Mais nous, on s'en souvient. Nous, on a ces images-là. Voilà, c'est ça. Mais je laisse la parole à ma fille.
Alors la grande sœur, prenez le micro. parce que c'est souvent, c'est pareil. On a l'impression que souvent, évidemment, naturellement, les parents ont un rôle très important à jouer. Mais il y a comme un impact qui vient par ricochet sur le frère ou la sœur.
Oh oui, c'est même un gros ricochet, ouais, parce que alors du coup chaque situation est différente, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que nous dans notre situation, ou en tout cas dans ma situation, si je parle un peu plus de manière égocentrée, ouais, moi j'ai l'impression de l'avoir vécu en tout cas de plein fouet, sachant que pour revenir encore une fois sur la première vraie crise tonico-clonique. Voilà, il y avait ma maman, il y avait ma sœur et il y avait moi, enfin mon petit copain de l'époque, mais qui n'était pas du tout familiarisé avec l'épilepsie. Mais du coup, enfin, le premier, comment dire, premier recours qu'a eu ma maman quand elle a vu ma sœur tomber, c'était de m'appeler moi. Donc finalement, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un gros ricochet parce que j'ai été directement impliquée dans la situation. Impliqué dans l'effroi, hein, parce que pour moi c'était quand même un sacré. C'était vraiment ça, c'était de l'effroi en fait de voir ma petite sœur tomber sans savoir vraiment ce qui se passait. Parce que oui, on peut rationaliser et se dire que c'est une crise d'épilepsie, que voilà, en plus ma petite sœur elle est en situation de polyhandicap, donc voilà, il y a des choses avec lesquelles je suis plus ou moins familiarisée, mais quand même, voilà, quand on voit un proche tomber, moi tout de suite je me suis dit, mais en fait elle est en train de mourir, c'est terrible, enfin, ça doit pas être à ce moment-là, enfin voilà. Et donc, ça, effectivement, ça m'a. Cet événement m'a marqué et me marque encore maintenant. Alors, pareil, voilà, je fais un travail sur moi, mais. On peut pas oublier, je trouve, cette rencontre-là avec la mort potentielle d'un proche. Quoi. Voilà, c'est très lourd comme ce que je suis en train de raconter. Je me rends compte, ouais.
C'est quelque chose que vous vivez depuis très longtemps aussi. Et y a cette question un peu sous-jacente, c'est-à-dire que on le dit souvent dans l'épilepsie, dans les épilepsies, c'est la crainte de la prochaine crise. On arrive à se détacher un petit peu de ça. Parce que on entend beaucoup dans tous les témoignages, et on l'a entendu ce soir, la peur. La peur est quelque chose qui revient très souvent. Comment on le vit quand on est aidant? Et comment, et si je pousse un peu plus loin, comment on se projette justement sur la suite de la question? Et qu'est-ce qu'on fait de ça pour l'autonomiser derrière?
Oh là là.
C'est une large question, hein?
Oui, c'est ça. Bah, si tu veux. Oui, je sais pas. Oui, vas-y. Bah, je passe la parole.
La maman va reprendre la parole.
Alors oui, la peur, elle est constamment là, tout le temps. Tout le temps, dans chaque acte de la vie, dès qu'on sort, dès qu'on fait quelque chose, voilà, c'est toujours là. Comment on fait? Moi, en tout cas, je suis allée chercher des ressources, j'allais dire, je suis allée chercher de l'aide, en fait. Et l'aide, je l'ai trouvée en la présence de Céline Bellinger, de Ludivine Rohrer, du professeur Tivart. Et là, pour le coup, j'en profite pour vous remercier, parce qu'au-delà des fonctions que vous occupez, il y a de l'humanité derrière. Voilà, il y a de l'humanité derrière. Quand je vois professeur Tivart qui pourrait effectivement prescrire le Lamictal, prescrire l'ontoserie, au revoir messieurs, dames. Voilà. Non, il y a toujours un échange et il y a une réflexion et il y a une participation active de la personne, du parent, dans ce qu'on observe au quotidien, dans ce qu'on note. Et à chaque fois, c'est associé à ça, le traitement, la réflexion autour du traitement, de la médication, elle est associée à ce qu'on vit au quotidien. C'est pas seulement j'ouvre mon ordonnancier, je signe et basta. Non, c'est vraiment quelque chose qui est concerté et humanisé, parce que derrière, il y a des personnes. Hein, et quant à Céline ou Ludivine Rohrer, c'est pareil. Moi, je sais que la première personne, on m'avait parlé de l'équipe relais handicap rare, de cette coordination. Et effectivement, j'ai eu des ressources physiques. Hein, j'ai eu le calendrier des crises, le petit passeport d'accompagnement. Vraiment, j'ai eu des outils. Voilà. Et j'ai eu aussi de la réassurance. J'ai eu aussi du « oui, l'épilepsie, c'est une maladie, on n'en meurt pas ». Bon, ce soir, on a appris que oui, on pouvait en mourir. Mais voilà, c'est une manière de prendre de la distance par rapport à ça. Et du coup, ça donne des ressources aussi morales. Voilà. Et c'est très, très important. Et il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Et pour Mme Rohrer, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement, voilà, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, il y a un effet secondaire, la prise de sang n'est pas bonne. Et plutôt que de rester dans son coin et de tisser des scénarios catastrophes qui vont nous enfoncer encore plus, un petit mail, hop, un appel, allez, on débriefe, qu'est-ce qui se passe, comment, allez, je revois avec le médecin et je reviens vers vous. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, finalement, ça aide, ça accompagne le quotidien en le réassurant. Voilà.
Et cette réassurance, c'est ce qui permet aussi d'accompagner vers l'aide à l'autonomie ?
Ah ben complètement, complètement. Je pense que si la transition dont je parlais tout à l'heure du monde enfant au monde adulte s'est si bien passée, c'est parce que j'étais pas toute seule, parce que Léna ne l'était pas, et parce qu'il y a eu, voilà, dans le foyer où Léna aujourd'hui, je leur ai parlé de l'équipe relais handicap rare, Madame Bellinger a fait une sensibilisation autour de l'épilepsie, elles ont appris des choses, parce qu'effectivement, on imagine encore, même dans les établissements médico-sociaux, que l'épilepsie, c'est la crise par terre, où on convulse, etc. Mais tout à l'heure, quelqu'un disait, ça ressemble un peu à du somnambulisme. Oui, il y a des types de crises qui ne sont pas que tonico-cloniques. Et ça, voilà, le fait de sensibiliser les professionnels, ça permet aussi d'accueillir la personne au mieux dans l'établissement où elle va aller.
Puisqu'on a parlé du côté médical, je vais peut-être vous donner la parole à Ludivine ou à nos deux neurologues ici présents. Cette question aussi, parce qu'on entend la notion du moment du diagnostic, du moment où on explique ce qu'est une épilepsie. Comment est-ce qu'on explique et on accompagne les dons aussi pour qu'ils comprennent que oui, il y aura des peurs, mais oui, il va falloir aussi surpasser ces peurs pour aider la personne aussi à grandir. Qui veut réagir sur cette question ? Allez, docteur Ferrand.
Oui. Donc, alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a les toutes premières consultations qui sont des consultations difficiles pour tout le monde, pour le médecin comme pour le patient et les dents. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup d'informations à donner, et on sait, je parle personnellement, mais je sais jamais jusqu'où faut aller sur la première consultation. Pourquoi ? Parce que plus on dit de choses, plus on perd les patients, et moins il y a d'informations de reçues. Donc c'est toujours un travail compliqué de vouloir donner les informations les plus importantes, qu'elle soit claire, qu'il y ait déjà un premier travail de réaliser sur la compréhension de la maladie, sur comment gérer les crises, sans vouloir trop en dire et finalement noyer l'information. Donc et ça me fait penser aussi au second problème, qui est que nos délais sont très longs, et ça, on en est très désolé, mais ce qui serait idéal, c'est de pouvoir revoir très rapidement pour déjà refaire un point sur ce qui a été compris, comment a été reçue la première information, pour pouvoir ensuite passer sur des étapes, les étapes suivantes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je voulais quand même montrer la complexité de cette mise en relation initiale, qui fait que tout le monde est un peu perdu à la fin. Et c'est là aussi le rôle des aidants, c'est-à-dire que même, quelle que soit l'épilepsie, quel que soit le handicap associé, c'est toujours bien de venir en consultation avec un aidant ou accompagné de quelqu'un de confiance, parce qu'il y a tellement d'informations de données que pour retenir un maximum de choses, il faut plus d'un cerveau. Donc voilà, c'est un petit peu pour mettre un petit peu en lumière la difficulté de la transmission d'informations déjà.
Je crois que le docteur Kuchenbusch veut répondre aussi.
Alors c'est pour ça que se développent les programmes d'éducation thérapeutique. Hein. Leur grand rôle est justement de reprendre les choses calmement, à tête reposée, pour replacer le contexte, pour replacer les messages importants. C'est vrai qu'on annonce une épilepsie, On sait très bien que les patients retiennent peu de choses, en fait. Ils sont choqués par l'annonce. Et après, tout ce qui va après est peu transmis. Ce qui est important pour nous, c'est de transmettre les risques immédiats. Et donc ça, c'est les points que je voulais juste reprendre ça sur ce qu'avait dit Michael. Autrement, il y a aussi nous qui surprotégeons parfois. En fait, en tant que médecin, parfois, je surprotège. Des fois, je suis obligé d'être courageux. Par exemple, j'ai une patiente qui fait du kayak en eau vive et qui est épileptique. Elle est venue faire un sport étude de kayak en eau vive. J'avoue que je signe les autorisations, mais je tremble. Mais je reste courageux et je me dis, ben, voilà, tout va bien se passer. Mais c'est vrai que même nous, on peut surprotéger nos patients. Et on a un rôle d'essayer d'être juste dans notre prise en charge, d'être honnête aussi dans l'information qu'on donne. Hein, les informations de la SUDEP dont a parlé M. Maillard, c'est une information toujours difficile. Il faut toujours savoir la recontextualiser pour dire dans quelle population il y a des risques. Mais c'est une annonce qu'on doit avoir l'honnêteté de faire, en fait. Et il y a une étude qui était sortie, qui était très intéressante, sur des épilepsies extrêmement graves, où finalement les parents relevaient le fait que le médecin ne leur demandait jamais comment ça allait à eux, et qu'ils se focalisaient sur le patient, mais ne posaient pas la question aux parents de dire « comment allez-vous, vous ?». Et il est vrai que nos temps de consultation sont très serrés, et on a parfois un peu peur d'ouvrir la porte parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir et que c'est parfois un peu difficile à tenir dans une temporalité de consultation. Même si ça doit avoir lieu, en fait.
On voit bien que c'est important. Vous parliez justement des infirmières en pratique avancée. Ludivine Rohrer, c'est aussi ça votre rôle, c'est un peu d'intervenir après le médecin, après ce rendez-vous médical ?
Oui, alors on peut intervenir effectivement dans des consultations de reprise d'annonce, comme on appelle ça, où on va reprendre un petit peu l'annonce diagnostique, qu'est-ce qui a été compris, comment ça a été compris, parce que parfois entre ce qui a été annoncé, moi je suis souvent là quand même, et ce qui a été finalement compris un mois après ou deux mois après ou retenu, on se rend compte que voilà, il y a vraiment déjà des fausses idées qui se sont mises en place. Donc là peut intervenir l'éducation thérapeutique. Et puis avec l'éducation thérapeutique, donc c'est un autre aspect, c'est quelque chose qui va être sur du plus long terme, on va dire, que la consultation IPA en elle-même. Moi ce que je voulais dire sur l'éducation thérapeutique, c'est que c'est assez drôle dans un sens, c'est que finalement ça s'adresse plus souvent à l'aidant qu'au patient lui-même. L'exemple de Camille était assez flagrant parce que je me souviens qu'elle était en éducation thérapeutique avec une autre jeune patiente exactement du même âge avec leurs parents et en fait finalement ça a été un groupe de parole entre parents. Les jeunes filles ne vivaient pas du tout mal leur épilepsie. Voilà, bon, après c'était le début, hein, mais c'était vraiment les parents, les mamans qui avaient beaucoup de difficultés. Et on a levé plein de fausses idées finalement avec les mamans plutôt qu'avec les jeunes filles qui étaient bien dans leur peau.
D'ailleurs, on le voit, hein, quand vous parlez avec Léna dans le petit documentaire, Léna, elle pense à s'amuser, à vivre, alors que vous pensez au risque, mais aussi à ce que ça implique derrière. On peut redonner le micro, peut-être. Je vous donne le micro, Madame Orler. Hop.
Oui, mais c'est mieux dans ce sens-là.
C'est vrai. C'est bien dans ce sens-là. C'est une façon d'autonomiser quelque part déjà pour vous.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours eu le souhait qu'elle soit autonome le plus possible.
Oui, parce qu'on rappelle qu'on ne peut pas avoir tous le même degré d'autonomie.
Non, du tout. En tout cas, à défaut d'être autonome, je dis souvent que je voudrais qu'elle soit, enfin j'espère en tout cas qu'elle l'est, et je fais tout pour, autodéterminée. C'est-à-dire qu'elle fasse ses choix avec les explications que je lui donne, voilà, qui sont à sa portée, hein, et qu'elle puisse faire ses propres choix. Voilà. Par exemple, le foyer dans lequel elle est, c'est elle qui l'a choisi contre vents et marées. Je regarde Madame Bélinger parce qu'elle était là. Et d'ailleurs, elle l'a très bien choisi. Hein, tu es bien dans ton foyer ? Oui, tu es très bien. Voilà. Du coup, je rebondis sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure d'une maman qui parlait de la crainte de, voilà, il va aller dans une structure. Oui, il vaut mieux peut-être aller dans une structure
médico-social et y être le plus autonome possible que de rester dans une société qui, parfois, peut se montrer cruelle et pas du tout inclusive. Parfois, je dis, hein, je ne généralise pas, hein, parce qu'on a de très beaux contre-exemples. Mais voilà, donc effectivement, l'idée, c'est... Oui, c'est de... Et puis d'être assuré aussi, là où les enfants ou jeunes adultes peuvent aller.
Je voudrais juste que vous rebondissiez sur ce que disait Ludivine Rohrer il y a deux secondes. Elle disait, les mamans ensemble aussi, c'était important qu'elles discutent. Cet échange aussi d'expérience, c'est quelque chose que vous faites ?
Alors, par rapport à ça, je ne suis pas trop dans les normes, moi. Mais voilà, quand on a appris le handicap de Léna, quand elle était toute petite, on m'a proposé de participer à des groupes de parole, à des associations. Je n'ai pas voulu, j'ai fait ce choix-là parce que, me connaissant, je ne voulais pas m'enfermer dans cette question-là. Je ne voulais pas vivre que par rapport à ça. Et il fallait apprendre à grandir comme tout le monde, finalement, l'une comme l'autre, et les unes comme les autres aussi. Voilà, donc je ne voulais pas faire ça. Pour le coup, j'ai découvert la communauté de pratique épilepsie, et je trouve, pour moi en tout cas, que c'est une bonne formule, parce que dans cette communauté de pratique, Madame Bellinger le soulignait un petit peu tout à l'heure, on a à la fois des professionnels, des familles, et là, pour le coup, ça permet un échange qui est vraiment distancié et qui ne serait pas en vase clos autour du même sujet. Voilà.
On va donner le micro à Céline, justement. C'est une vraie question, ça aussi, cette idée de se dire, est-ce qu'il faut, à quel moment on sort, justement, de ce vase clos, je crois que vous disiez d'ailleurs, de l'entre-soi dans le témoignage que vous donniez en vidéo. Comment, quels sont les moyens de sortir de ce vase clos, Céline ?
Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas concernée à ce stade-là. Je voudrais, par rapport au vase clos...
Il existe des structures, il existe des
oui,
endroits...
Oui, mais alors, ouais. Je rebondirai quand même aussi sur... peut-être qu'on sort aussi de ce vase clos quand on ose, quand on a le courage d'aller vers d'autres acteurs qui ne sont peut-être pas dans l'entre-soi, justement. Donc, peut-être, voilà, les ressources que j'ai pu évoquer tout à l'heure, n'hésitez pas à vous tourner vers elles, que ce soit associatif, peu importe.
On peut peut-être les évoquer, parce que tout à l'heure, ce n'était pas à l'antenne, donc si tu peux les reciter pour nos auditeurs. Maison des aidants, des choses comme
oui,
ça.
Oui, alors, effectivement, il y a la Maison des aidants, les plateformes de répit, les associations, qui sont aussi un premier niveau d'information et d'écoute. Et puis, je reviendrai aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Horler, sur la question de comment on accompagne aussi, alors là, pour l'ENA, c'était la transition, et comment on sort du vase clos. Je trouve aussi extrêmement important tout le partenariat qu'on a eu entre professionnels et avec vous. C'est-à-dire que on a réussi à faire, pour ma part, de l'écoute, de la réassurance, comme vous disiez tout à l'heure, de la... Je ne sais pas, là, je ne trouve pas bien les mots, mais c'est donner les outils également. Et puis, c'est dire, mais c'est OK, ce que vous faites, c'est OK. Il n'y a pas de jugement à porter. Vous faites là où vous en êtes, où vous en êtes. On sera toujours là. Pouvoir relayer en disant, là, je crois que vous pouvez appeler Madame Rohrer. Je pense que là, c'est le moment. Et puis, voilà, j'avais les retours aussi de tout le travail de Madame Tivert. Enfin, et je pense que cette coopération, collaboration permet aussi à la personne, à l'aidant, de sortir de l'entre-soi et d'aller vers différents acteurs en fonction des besoins. J'ai pas tout à fait répondu à ta question.
Relativement. Si.
Relativement.
Mais on va rebondir aussi sur ce que disait Madame Horler il y a quelques minutes. Vous parliez de l'endroit où est votre fille Léna et des résidences. Je voudrais peut-être qu'on donne la parole à Leslie. André, je rappelle, vous êtes psychologue à la MAS Épi Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est la MAS Épi Grand Est ? C'est quoi le rôle que vous jouez concrètement ?
Alors, la MAS accueille des personnes adultes, épileptiques essentiellement. Donc, c'est un lieu de vie. Les résidents vivent à la MAS, c'est chez eux. Ils ont une chambre, une salle de bain, des lieux communs, des activités, des soignants, des professionnels qui s'occupent d'eux, mais ils sont chez eux. Nous venons travailler pour eux. Donc, moi, j'interviens donc en tant que psychologue à 80% à la MAS. J'accompagne les résidents dans leur quotidien. J'en ai certains en entretien individuel quand ils le souhaitent. D'autres, je participe avec eux aux activités. Donc ils ont beaucoup d'activités, hein, de la musique, du canoë-kayak, mais pas en eau libre. Ils font des sorties, ils vont au cinéma, au restaurant, voilà, ils font diverses activités. On leur donne aussi la possibilité de choisir les activités qu'ils veulent faire en fonction de leurs possibilités et leur degré de handicap, bien sûr. Mais ils ont la possibilité, voilà, on leur fait un certain nombre de propositions et choisissent dans leur emploi du temps ce qu'ils veulent faire. Et nous avons aussi un plateau technique assez complet. Nous avons des kinés qui viennent, une ergothérapeute, une psychomotricienne, une orthophoniste, une psychiatre qui vient une fois par mois, le docteur Ferrand qui vient toutes les semaines. Voilà, nous avons des soignants, des éducateurs. Donc tout ce plateau technique permet de prendre en charge au mieux et au plus près des besoins des résidents.
Donc si je comprends bien, quand on parle d'autonomie, vous y contribuez quelque part en leur permettant de choisir vers quoi ils veulent aller pour grandir.
Tout à fait, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, même au sein de la masse. S'ils veulent donner un coup de main aux professionnels, ils peuvent, hein, mettre la table, distribuer le linge quand il revient du pressing, ce genre de choses. Enfin, tout ce qu'ils sont en capacité de faire, en autonomie, on les y accompagne le plus possible. Et c'est vrai que pour les parents, des fois, c'est « oh ben, à la maison, il faisait pas ça, on lui laissait pas faire ». Vas-y, nous, on n'est pas les parents, donc on en profite. On peut se permettre d'avoir un rôle un peu plus directif, des fois, et un peu plus, à pousser un peu plus que ce que pourrait faire un parent qui n'oserait pas ou qui aurait peur que son enfant se fasse mal.
Justement, vous parlez des parents. Comment se passe le moment où le parent laisse son enfant venir chez vous? On comprend que pour l'aidant, ça peut être quelque part salvateur, mais que ce n'est pas forcément évident non plus, parce que jusque-là, elle a toujours vécu avec la crainte de la prochaine crise. Je vois que Mme Orler me regarde en souriant aussi.
C'est vrai que c'est souvent compliqué pour les parents de laisser leur enfant à des professionnels, à des inconnus, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, savoir ce qu'on va faire avec leur enfant. Ça prend un peu de temps pour qu'ils apprennent à nous connaître, à nous faire confiance. Quand ils voient que leur enfant est bien, qu'il s'épanouit, voilà, qu'il trouve un peu sa place, et puis que vous, parents aussi, vous retrouviez votre place. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'ils peuvent retrouver aussi leur place de parent. Donc il faut lâcher ce côté aidant, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, on a des parents des fois qui reviennent en disant ben, nous on fait pas comme ça ou c'est pas comme ça, voilà. Donc on dit ben, nous on fait différemment. Et puis avec le temps, voilà, ils apprennent aussi à nous connaître, à voir comment on fait, à voir que ça a quelque chose de positif pour leur enfant. Et les choses finissent souvent par se mettre en place. Et après, voilà, c'est de la communication. Quand ils viennent rendre visite, le téléphone, les mails, on est ouvert toute l'année, toute la journée. Enfin, voilà, il y a toujours quelqu'un au bout du fil, donc ils n'hésitent pas à appeler et on communique, quoi. De toute façon, c'est toujours la base, la communication.
Madame Orler, ça vous a changé les choses, justement, que Léna puisse partir vivre aussi par elle-même en foyer?
Oui, alors, oui. Bah, pour être dans l'honnêteté la plus totale, les premières semaines, je pense que j'ai dû nettoyer ma maison à fond 10 fois. Voilà. Et puis après, effectivement, alors on est parents déjà. Hein, quand un enfant naît, forcément. Et puis après, quand il y a une situation de handicap, à un moment donné dans la vie, on devient aidant. Parce que on fait des choses qui ne relèvent plus finalement de la parentalité quand l'enfant a 22 ans et qu'on doit intervenir sur certains moments de la vie où on ne devrait plus. Et puis après, quand effectivement on a des structures relais qui redonnent la place effectivement aux personnes accompagnées, aux aidées, nous, il faut qu'on retrouve notre place de personne, de femme, d'individu à part entière. Alors, moi, j'ai eu la chance de toujours travailler, donc ça, c'était déjà bien. Mais après, en termes de vie sociale, ça faisait longtemps que je savais plus ce que c'était que d'aller au cinéma, par exemple. Voilà.
Et puis, la relation avec votre autre fille, ça a changé quelque chose. On vous a pu demander aussi, je vous le demande. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand votre sœur est partie aussi dans sa propre vie? Alors, dans votre relation avec votre sœur, avec vos parents?
Alors moi, du coup, ça faisait déjà un moment que je vivais plus à la maison, hein, forcément. Oui, enfin, non, pas forcément, mais du coup, en tout cas, voilà, moi, ça faisait un moment que j'étais plus chez nous. Mais tout de suite, enfin, globalement, j'ai été contente pour ma sœur et pour ma maman, hein, en tout cas. Mais parce qu'en fait, je me suis revue moi quand je suis allée à la fac pour la première année de fac. Je me suis revue me dire oh là là, qu'est-ce que c'est bien, je suis autonome, j'ai ma vie, je peux sortir avec les copains, ma mère elle est pas obligée de le savoir. Voilà. tous ces petits trucs là que je souhaitais vraiment très fort pour ma sœur. Et à un moment donné, il y a eu des phases où je me suis dit mais c'est terrible parce que ma petite sœur, elle pourra peut-être jamais vivre ça, ces moments de liberté là que moi j'ai eu la chance de vivre et que j'ai encore la chance de vivre d'ailleurs. Et donc voilà, donc quand j'ai appris que donc Léna, elle était prise dans le foyer en plus qui lui convenait, etc., etc., je me suis dit super. Et en plus de ça, après, j'ai très régulièrement des nouvelles. Et donc j'entends que ma sœur, elle va en boîte de nuit. Enfin, des fois, elle fait des trucs encore plus fous que moi. Donc je me dis waouh, c'est dingue. Et donc voilà. Donc et je réponds souvent à ma mère, mais c'est trop bien, quoi. Elle s'éclate, c'est génial. Voilà. Et en plus, à côté de ça, je vois effectivement aussi que ma maman, elle s'épanouit aussi toujours plus. Voilà, en voyant aussi ses copines, en faisant aussi ses sorties, en faisant tout ça. Donc voilà, moi, même si je vis plus au quotidien avec elle au pluriel, ça me fait plaisir, quoi, de voir que tout le monde retrouve sa vie, en fait, finalement. Voilà.
Alors, il y a plusieurs structures, on a parlé du COSE, à côté de vous, il y a Josette Bury de la FTC. Vous, c'est des résidences, on dit de quoi, d'habitat autonome, c'est ça?
Alors, c'est de l'habitat inclusif pour certains. Alors, l'histoire de ce départ d'habitat, c'est qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, nos cérébraux lésés, merci messieurs les réanimateurs et les neuros, nous les ramènent trop bien. Alors, je dis entre guillemets trop bien, mais le problème, c'est que ils nous reviennent avec quasiment leurs deux bras, leurs deux jambes, mais une tête explosée. Et donc, dans l'incapacité pour beaucoup de pouvoir vivre, alors qu'avant, vous aviez quand même des personnes super handicapées, en état végétatif, en état paresseux relationnel. Maintenant, on en a quand même beaucoup qui arrivent à revenir à domicile et qui sont, même s'ils ont une hémiplégie éventuellement, qui n'ont plus de place dans les fameuses masses, femmes, faces, tout ce que vous voulez. Ils ne rentrent pas, ils n'ont pas les épaules pour rentrer dans ces foyers-là. Et moi, quand j'ai été présidente, donc je suis maman d'un jeune traumatisé, enfin, qui était jeune, maintenant il est moins, ça fait 20 ans, j'étais maman d'un jeune traumatisé crânien et j'ai créé cette association. Et quand j'ai fait ma tournée régionale de présidente, que j'ai rencontré toutes les familles, le premier point que je me suis rendu compte, c'était la personne qui est revenue par défaut chez les parents à 50 ans ou à 40 ans ou à 30 ans, qui était là en logement et qui, d'ailleurs, je me rappelle d'une visite où j'avais été voir le monsieur, il me dit, ben alors il paraît que vous venez pour moi. Ben, j'ai dit oui, on va voir ce qu'on va faire. La maman était partie me faire un café et il me dit ça sert à rien. Il dit, je suis moins importante que la potiche là, qu'il faut pas que je casse. Bon, ça relativise les choses et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, comme vous disiez, et je suis une mère aussi et je fais gaffe aussi à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on finit par les oublier ou on finit par faire leur place parce qu'ils sont trop lents, parce qu'ils n'entendent pas, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'il faut répéter, parce que. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, avec les membres du CA, on s'est dit il faut faire quelque chose parce que ces gens-là, ils ont le droit de vivre et les parents ont le droit de vivre, ou les aidants ont le droit de vivre. Et beaucoup de nos jeunes couples, il y a un couple sur 10 qui va rester, les autres vont divorcer, je comprends. Tout ça fait qu'on est venu à l'habitat. Donc je suis partie d'une occasion, d'une visite d'un endroit où je me suis dit, on va faire. On va faire des logements pour des personnes, mais avec un accompagnement pour aider ces personnes-là. On est parti comme ça. Alors, je savais pas si j'avais... J'ai appris un an après qu'il fallait que je fasse un dossier d'intermédiation locative. Bah, j'ai dit, c'est pas grave, on va le faire. Monsieur le préfet, il m'en a pas voulu. Donc, on a eu. D'ailleurs, il m'a rajouté des agréments depuis. Donc, c'est que le boulot, il est bien fait. On a découvert au fur et à mesure. Et on est parti comme ça, la cheville au cœur, parce que franchement, il fallait qu'on aide ces familles famille et surtout ces personnes. Et de fil en aiguille, on a une première promo, ça s'est bien passé, parce que j'appelle ça des promos, moi chez nous c'est comme ça, il faut qu'ils avancent, n'est-ce pas Corentin, il faut avancer. Donc je comprends, et notre première promo, à un moment donné, un an après, il y en avait 2 sur 4 qui disaient que c'était un logement pour 4 personnes, où on leur réapprend les actes de la vie quotidienne. Et franchement, c'est fait pour les personnes qui sortent de l'hôpital, qui sortent du centre de rééducation, ou qui sont chez des familles depuis très longtemps, qu'il faut réapprendre. Où maintenant, on a les personnes qui veulent sortir des masses et qui viennent chez nous. Donc, on leur réapprend les actes de la vie quotidienne. Et il y en a des trucs rigolos. Hein, quand vous en avez une qui sait pas comment tenir un balai, bon, bah, c'est rigolo. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont franchement anecdotiques et que ça fait du bien au moral à tout le monde. Et on avance comme ça. Et sur cette promo-là, il y en a 2 sur 4 qui ont voulu partir, prendre leur vie, etc. Et de fil en aiguille, on en est venu à se dire, bon, faire de la coloc, à un moment donné, chez un cérébro lésé, c'est un peu TNT. Donc, c'est dangereux. Donc, on a réfléchi et pareil, j'ai eu une idée comme ça. J'ai dit, bah, l'idéal, ça serait que chacun ait son appartement, qui va rentrer dans son appart, fermer la porte, et puis, bah, si la vaisselle n'est pas faite, si les chaussettes traînent, ou je sais pas quoi, le coloc, il n'est pas là pour dire, ça suffit, il y en a marre, ou tu m'as mangé mon repas, ou, enfin, j'en ai plein des anecdotes. Un jour, j'ai dit, je ferai un bouquin, parce que franchement, c'est trop drôle. Et à un moment donné, c'est comme ça que m'est venue l'idée de ces studios. Avec un espace commun. Là, on faisait de l'habitat inclusif. Je suis comme Molière, on a fait de l'habitat inclusif avant de savoir que c'était de l'habitat inclusif. Et on est parti comme ça à faire cette résidence. On a rénové un immeuble que c'est la mairie de Maxéville qui nous l'a revendu. On a acheté cet immeuble, on a transformé en 8 studios, entre quand même 27 mètres carrés, 32 mètres carrés, ça va, c'est pas mal, avec tout ce qui est aménagé, salle de bain aménagée, PMR, etc. Et on est parti là-dessus, avec un espace commun. Et j'avais aussi bien travaillé au corps le conseil départemental depuis 5 ans pour qu'on ait notre propre service d'aide à domicile qui était formé à la cérébro-lésion pour permettre d'intervenir chez les gens. Et on est parti comme ça. Et de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Ce qui fait que cette histoire, on a maintenant des appartements en diffus à droite, à gauche. On a des personnes qui sont, quand elles n'arrivent pas à obtenir leur droit de, enfin, pouvoir louer un logement, on a l'intermédiation locative, ce qui permet de pouvoir louer un logement et ce qui permet à un moment donné de faire un bail glissant. On est grosso modo depuis 2010 et on a aidé 100 personnes à peu près, approximativement 100 personnes à pouvoir avoir leur propre logement, voire même être propriétaire, parce que quand on arrive aussi à travailler avec les banquiers, etc. Moi je trouve que c'est bien et ça fait 100 personnes qui, et surtout ça fait 100 familles qui sont quand même rassurées. Parce que il y a toujours quelqu'un qui est dans les logements pour les aider. Il y a toujours, nous, dans notre HNAT, on a l'espace commun. Il y a toujours quelqu'un. Ils peuvent venir, ils peuvent boire un café, ils vont faire un jeu. Mais on a toujours cette assurance que les personnes sont encadrées, pas couvées. Parce que le coût de l'aspirateur et tout ça, on n'y coupe pas. Mais elles sont sécurisées. Voilà. Et du coup, les familles le vivent nettement mieux. Et cette séparation des familles, elle est importante. Sauf que la famille, elle a pas intérêt à nous le laisser comme une vieille valise. Et qu'il faut qu'il y ait justement du contact avec les familles qui continue. Voilà l'aventure de nos habitats.
Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent, hein, finalement, pour permettre et aux personnes qui souffrent d'épilepsie de pouvoir grandir, s'autonomiser. On voit l'accompagnement qui est mis en place. Peut-être un mot de la fin, parce qu'on va devoir déjà se quitter. J'ai envie de le donner à Madame Horler ou à sa fille. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui peut-être traversent une situation que vous avez traversée aujourd'hui? Quel conseil vous leur donneriez? Voilà.
Alors, difficile. Moi, je dirais... Alors, je me base vraiment, encore une fois, que sur mon expérience, mais... Disons que quand j'étais petite, je me revois encore me dire « ben, c'est rien, ma petite sœur, elle est différente, mais c'est pas grave, elle est comme toutes les autres petites sœurs. » Alors, J'ai envie de dire maintenant non, elle n'est pas comme toutes les autres petites sœurs, sauf que en fait c'est pas grave. Enfin non, alors attendez, je m'en mêle, mais dans le sens où oui, elle n'est pas comme les autres petites sœurs, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, mais j'encourage en tout cas vraiment à parler du handicap et de l'épilepsie et de toutes ces choses-là en temps, enfin. Comme elles sont ces choses, oui. C'est-à-dire pas d'essayer de mettre un voile dessus en se disant non, mais c'est oui, mon proche est comme les autres, on va y arriver. Alors oui, sûrement qu'on va tous y arriver, mais faut aussi s'autoriser des fois à se dire bah là c'est dur ce que je vis en tant que proche, ça doit être dur aussi pour la personne que j'aime, voilà, en face de moi, mais voilà, de s'autoriser à vivre ces moments-là et de se dire voilà que c'est une expérience et qu'on aurait préféré peut-être ne pas la vivre, mais qu'elle nous apporte quand même quelque chose. Et voilà.
Et finalement, vous avez grandi ensemble.
Ouais, exactement. Exactement. Et on continue. Et j'espère qu'on va encore continuer longtemps.
Et puis Léna vous amènera en boîte, promis.
Ouais, j'espère.
On attendra un peu pour le petit copain, dit la maman. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Je remercie donc Madame Orler, vos deux filles d'avoir participé. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on remercie Dr Ferrand, Michael Ferrand, le Dr Kuchenbusch, Mathieu Kuchenbusch, Ludivine Rohrer. On peut les applaudir aussi. Céline Bélinger et Leslie André, ainsi que Josette Burry, qu'on applaudit également. Merci à toutes et à tous, belle soirée et à bientôt sur RCN pour un nouveau rendez-vous avec Épices et Tout.